Bigfoot, septembre 2024. Après avoir traversé autant de mes aventures, je pensais que plus rien ne pourrait me surprendre. Pourtant, rien, et je dis bien rien, ne m'avait préparé à ce qui m'attendait en ce fatidique vendredi 13 septembre 2024. L'année précédente, ma cousine Caroline avait décidé de s'exiler dans une cabine en plein cœur du Grand Nord québécois, sous prétexte qu'elle voulait changer de vie. Une décision qui, venant d'une autre personne, aurait pu sembler noble et même romantique. Dans son cas, je soupçonnais plutôt qu'elle tentait à nouveau d'échapper aux autorités. Elle m'avait harcelé pendant des mois pour que je vienne lui rendre visite, et après avoir épuisé toutes mes excuses, j'avais fini par céder. Le trajet pour s'y rendre fut interminable. Par chance, Linda s'était proposée pour être derrière le volant, car de nous deux, c'est elle qui possède la patience nécessaire pour endurer des heures de route. Au départ, la dite route était encore bordée de petites villes et d'haltes routières. Mais plus nous nous avançâmes, plus la civilisation sembla s'effacer lentement derrière nous. L'asphalte impeccable commença à se fissurer peu à peu, laissant place à des chemins de gravier, puis à une route de terre battue qui serpentait à travers une forêt de conifères si dense que la lumière du jour y pénétrait à peine. L'air devint plus frais, chargé de l'odeur humide du bois. Dans quel coin oublié du monde Caroline avait-elle bien pu poser ses valises cette fois-ci? Lorsque nous arrivâmes enfin à destination, mes nerfs cédèrent complètement. Comment vous décrire la cabane de Caroline? C'était peut-être l'épuisement du voyage, mais je me mis à pleurer dès que Linda gara la voiture. Devant nous, en plein cœur de la forêt, se dressait une vieille cabane décrépite qui semblait avoir été abandonnée depuis des siècles. Son bois, jadis robuste, était désormais noirci par l'humidité et envahi d'une mousse verdâtre qui semblait vouloir engloutir la maison tout entière. Certaines planches manquaient sur les murs et le toit semblait prêt à s'effondrer à la moindre rafale de vent. Les fenêtres, si on pouvait encore les appeler ainsi, étaient si crasseuses qu'il était impossible de voir à travers ces dernières. Caroline prétextait que c'était pour son intimité, bien que ses plus proches voisins habitaient à une cinquantaine de kilomètres. J'étais en train de ravaler mes sanglots lorsqu'un hurlement, perçant le silence de la forêt, me fit sursauter. « Grouillez-vous à rentrer vos bagages, là, il va se mettre à mouiller !» Caroline agitait frénétiquement les bras, comme si elle tentait de guider un avion en détresse. Son visage était rouge et ruisselant de sueur. Armée d'un marteau, elle semblait tenter d'ériger une nouvelle clôture autour de sa demeure. Les planches de bois, inégales et mal clouées, tenaient par une force qui relevait plus de la prière que de la charpenterie. Linda, empressée de suivre les indications, ouvrit le coffre de la voiture et attrapa les premières valises alors que je levai les yeux, cherchant le moindre signe d'une averse imminente. Rien. Il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel bleu au-dessus de nous. Linda se précipita vers l'entrée, bien décidée à éviter l'averse imaginaire. Derrière elle, Caroline accéléra brusquement le pas pour la suivre, dans un mouvement si énergique que son marteau lui échappa des mains. L'outil s'éleva dans les airs avant de retomber avec une précision dramatique, en plein centre du pare-brise de ma voiture. Ça commençait bien. Habitué à ce genre de péripéties, je soupirai avant de franchir à mon tour le seuil de la cabane. Si l'extérieur de la demeure était un désastre, l'intérieur relevait carrément d'un film d'horreur. L'air y était lourd et saturé d'une odeur qui semblait un mélange de poussière et de quelque chose qui était probablement mort sous le plancher depuis des mois. Des toiles d'araignées dansaient mollement au gré des courants d'air qui s'infiltraient par les fenêtres fissurées. Le foyer noirci par la suie trônait au fond du salon et les cendres à l'intérieur indiquaient qu'il avait récemment servi. Une information troublante, considérant que nous étions en septembre. Découragé, je me laissais tomber dans ce qui semblait être le fauteuil le moins sale. À peine mon élégant postérieur avait-il épousé le coussin gris de poussière, qu'un craquement sinistre résonna. En une fraction de seconde, le fauteuil et moi disparûmes d'un coup sec, engloutis par le plancher pourri. Un nuage de poussière s'éleva du trou béant, marquant l'endroit exact où mon corps et ma dignité venaient de s'écraser un étage plus bas. À peine remise de ma chute, Je levai la tête pour voir Caroline accroupie au bord du cratère, qui me regardait de ses grands yeux bleus. Pis, t'aimes-tu ça, Rita? C'est rustique. Selon moi, c'était plutôt préhistorique. Je voulais déjà rentrer chez moi pour retrouver ma baignoire en or massif que j'aurais remplie d'eau parfumée à la rose. Au lieu de ça, je passais le reste de la journée à écouter Caroline parler de sa nouvelle clôture. À croire que vivre dans les bois lui avait fait découvrir une passion pour la menuiserie et les échardes qui venaient avec. Par contre, si je dois lui concéder un mérite, c'est bien celui du souper. Contre toute attente, le repas fut absolument délicieux. Un poulet tendre et juteux au goût aussi inusité qu'indescriptible. J'espérais même que Linda en sorte inspirée, elle qui me préparait souvent du yogourt à la vanille pour souper. Le lendemain matin, Caroline me proposa d'aller prendre une marche en forêt. Même si je ne suis plus une grande fanatique de la randonnée depuis mes nombreux accidents forestiers, j'étais particulièrement excité à l'idée de respirer autre chose que de la moisissure. Je hochai donc la tête avec enthousiasme avant d'aller enfiler mon petit ensemble de randonneuses. Linda, elle, avait déjà trouvé une autre activité pour sa journée. La veille, elle avait proposé à Caroline de peinturer son salon avec du gris foncé pour, entre guillemets, égayer l'endroit. Elle prit cependant soin de nous préparer des sandwichs, qu'elle emballa soigneusement dans des papiers mouchoirs. Une fois nos sacs prêts, je suivis Caroline à l'extérieur. La forêt s'ouvrait devant nous, mystérieuse et calme. Le sentier était étroit et le sol sec craquait sous nos pas. Les racines, visibles et tordues, exigeaient une vigilance constante. Caroline, elle, marchait d'un pas assuré, en m'expliquant que ce sentier était l'un de ses préférés. Elle l'empruntait souvent pour se rendre à une petite rivière où nous pourrions manger nos sandwichs en profitant de la brise fraîche. Pendant quelques minutes, je me laissais emporter par la beauté des lieux, appréciant le calme et la verdure des conifères. Mais, à peine avions-nous débuté l'aventure, que mes mollets commencèrent à brûler et qu'une horde de maringouins se prit d'affection pour moi. Je tentai de garder le rythme, mais ma cousine marchait d'un pas bien plus assuré que le mien. Elle parlait de je ne sais quel oiseau rare qu'elle avait aperçu la semaine d'avant. Un phénix, disait-elle. Moi, je me concentrais surtout sur ma respiration, cherchant à ne pas m'effondrer avant d'avoir atteint la fameuse rivière. 2 heures passèrent et je n'avais toujours pas vu le fameux cours d'eau en question. Je commençais vraiment à regretter de ne pas être resté à la cabane pour regarder Linda peinturer. Caroline, j'ai vraiment besoin d'une pause, là, j'ampute mes orteils, pis c'est pas juste parce qu'ils sont amputés. Pas de réponse. Ma cousine avançait avec une détermination quasi inquiétante. Il était devenu clair que ce n'était pas une simple randonnée pour elle. Elle était en mission. Exaspérée et couverte de sueur, je laissai échapper une lamentation théâtrale, un véritable cri du cœur destiné à exprimer mon besoin d'arrêter pour me reposer. À peine le son avait-il commencé à sortir, que Caroline se tourna brusquement pour me sauter dessus. Sa main moite vint se plaquer sur mes lèvres pour étouffer mon gémissement. L'expression dans ses yeux tenait du prédateur traquant une proie. Un frisson me parcourut l'échine. Elle attendit quelques secondes, immobile, avant de relâcher son emprise sur ma bouche. Son regard fou scrutait les environs. J'avais vécu assez de mauvaises aventures avec elle pour savoir ce qui se passait ici. J'en avais assez, et j'étais prêt à retourner sur mes pas lorsqu'elle m'agrippa le bras gauche avec une poigne de fer. Rita, si tu veux survivre, il va falloir que tu m'écoutes comme fou. Mon regard se porta à sa main serrée autour de mon bras. Tout en moi hurlait de fuir, mais il était déjà trop tard. Un autre frisson glacial remonta le long de ma colonne vertébrale, lorsque je vis une silhouette massive qui se dessinait au loin. Je crus d'abord que mes yeux me jouaient un tour, mais ce n'était pas une illusion ni un effet de lumière trompant. Quelqu'un, non, quelque chose, nous observait. Mon corps refusa de bouger obstinément et mes jambes se transformèrent en 2 colonnes de béton bien ancrées au sol. La masse sombre et imposante ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu voir auparavant. Elle devait faire 7 pieds de haut. Facile. Une aberration de la nature. À mi-chemin entre l'homme et le singe. Son pelage, riche et inégal, formait des touffes épaisses autour de ses épaules, accentuant encore plus sa stature titanesque. Ses yeux bruns se perdaient dans l'obscurité de son visage, rendant son expression difficile à décrypter, surtout à cette distance. J'avais pourtant l'impression qu'il absorbait la scène autant que moi, nous analysant silencieusement. Anxieuse, je tournai lentement la tête vers Caroline, qui ne semblait ni surprise, ni effrayée. Son expression en disait long. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait cette créature. Avant même que je puisse lui vocaliser mon mécontentement, un mouvement dans ma vision périphérique attira mon regard. La bête venait de faire un pas vers l'avant. On aurait dit qu'elle s'amusait à tester notre courage pour voir si nous allions rester là ou prendre la fuite. J'aurais opté pour la seconde option si mes jambes n'avaient pas été aussi molles. Hélas, j'avais l'impression que mes membres inférieurs étaient devenus des spaghettis. Sans avertir, Caroline attrapa ma main et plaça l'un de mes doigts en l'air dans un geste de provocation évident. « Bouge surtout pas, Rita !» Je regardai ma main, paralysée, qui offrait un doigt d'honneur à la créature contre mon gré. En réponse à mon geste, celle-ci rugit de colère avant de s'élancer vers moi d'une rapidité que je n'aurais jamais cru possible. On aurait dit que chacun de ses pas avait la force d'un tremblement de terre. Je voulais crier, bouger, faire quelque chose, mais je n'y arrivais pas. Plus il s'approchait, et plus je constatais à quel point il était grand. Chaque fraction de seconde semblait durer une éternité, alors que mon cerveau réalisait à peine ce qui se passait. Pourtant, aussi soudainement qu'il l'avait chargé, il se retrouvait devant moi pour m'asséner un coup à la tête. Le choc fut brutal. Une onde de douleur traversa mon crâne, alors que mes jambes cédaient sous moi. Tout devint flou, et un bourdement sourd envahit mes oreilles. Je venais tout juste de m'effondrer au sol lorsque je sentis une poigne massive agripper mes jambes. En une fraction de seconde, mon corps quitta le sol et se retrouva projeté dans les airs. Avec une force démesurée, la créature me propulsa violemment contre un tronc d'arbre. Un craquement sinistre résonna dans ma colonne vertébrale, envoyant une vague de douleur indescriptible le long de mon dos. Mon souffle se coupa net lorsqu'il m'envoya ensuite percuter un second arbre avec une violence encore plus grande. Cette fois, c'est mon visage qui encaissa le choc, me faisant voir des étoiles. Le troisième coup ne suffit pas à attendre. C'est à ce moment que je réalisais que le Bigfoot se servait de moi comme d'une vulgaire batte de baseball pour frapper sur les troncs d'arbres avec une précision diabolique. Mes jambes servaient de manches, tandis que mon visage jouait le rôle du bout de la batte. Je rebondissais comme une vulgaire poupée de chiffon entre les immenses conifères. Chaque impact faisait claquer mes dents les unes contre les autres, jusqu'à ce que certaines abandonnent le combat et s'éparpillent au sol. À un moment, j'avais même l'impression de pouvoir sentir mon crâne se déformer sous les impacts répétés. Ironiquement, la douleur était si omniprésente qu'elle en devenait presque imperceptible. Je n'ai aucune idée de combien de fois mon corps percuta ces arbres. 10 fois? 20 fois? 37 fois? Impossible à dire. Chaque nouveau choc effaçait un peu plus la notion du temps. Il était déjà étonnant que j'aie résisté aussi longtemps, mais finalement, mon corps finit par céder et j'ai perdu conscience. Le reste de l'histoire, c'est Caroline qui me l'a raconté. Autant dire qu'il faut prendre chaque détail avec un grain de sel. Pendant que je servis de batte de baseball involontaire, ma cousine avait grimpé discrètement dans un arbre, sa lance de fortune entre les dents. J'avais été son appât, sa diversion, son sacrifice, pour capturer le Bigfoot. Perché entre les branches, elle avait attendu le moment parfait pour frapper. Puis, sans crier gare, elle s'élança dans le vide avec une férocité inouïe, sa lance pointée vers la cible. L'arme se planta profondément dans l'épaule massive de la bête, lui arrachant un hurlement si puissant que même Linda raconte l'avoir entendu. Sous l'impact, la créature desserra sa poigne et mon corps brisé fut projeté dans les airs pour finalement se suspendre aux branches d'un arbre telle une vulgaire décoration de Noël. Caroline, dans une explosion de rage et de courage, se retrouvait désormais sur le dos du Bigfoot. Accrochée à sa nuque, elle mordit le cou de la bête avec une fureur insensée. Le gros singe poilu tenta de la secouer, mais Caroline resta attachée, ses dents bien plantées dans la chair du monstre. Dans une explosion de rage, le Bigfoot se heurta volontairement le dos contre un tronc d'arbre et l'impact fit chanceler Caroline, qui fut projetée au sol. Secouée, elle se redressa rapidement, son regard brûlant de détermination. Sans hésiter, elle se rua vers lui pour lui asséner un coup de pied entre les jambes. Le Bigfoot tomba à genoux sous l'impact, se tenant la zone génitale dans une douleur manifeste. Vacillant dans la douleur, il cogna sa tête contre celle de Caroline, la projetant vers l'arrière. Elle s'écrasa lourdement au sol, étourdie par l'impact. Son souffle était court, son crâne bourdonnait, mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Étendue sur le dos, elle jeta un regard vers le ciel et, selon ses propres dires, elle ressentit une énergie mystique l'envahir. Sa déesse imaginaire lui envoyait la force de vaincre le démon. Poussée par sa conviction inexplicable, elle roula sur le côté et agrippa une énorme branche au sol. Toujours à genoux, le Bigfoot pleurait comme une gamine, sonné par la douleur provenant de son entrejambe. Dans un cri guttural, Caroline bondit et planta une branche en plein dans le cœur de la bête. Du moins, c'est ainsi qu'elle relate les événements. Triomphante, elle leva les bras au ciel pour proclamer haut et fort sa victoire. Mais son moment de gloire fut interrompu lorsqu'elle posa les yeux sur mon corps inerte, toujours suspendu aux branches d'un arbre. Ma position, selon elle, manquait cruellement de dignité. Elle soupira, posa les mains sur ses hanches et observa la scène avec un air découragé. Plutôt que de grimper à l'arbre, ce qu'elle avait pourtant fait sans difficulté quelques minutes plus tôt, elle choisit une solution beaucoup plus insultante. Elle se mit à me lancer des roches pour me faire tomber, comme si je n'étais qu'un fruit mûr prêt à se détacher de sa branche. Au bout de quelques projectiles bien placés, mon corps finit par tomber lourdement au sol. Caroline, satisfaite, s'approcha pour s'assurer que j'étais toujours en vie. Puis, levant les yeux, elle se rendit compte que le Bigfoot avait disparu. C'est là que son histoire tient moins la route. Comment aurait-il pris la fuite s'il était réellement mort d'une branche enfoncée dans le cœur? Furieuse de voir sa victoire lui filer entre les doigts, Caroline serra les poings. Elle avait déjà prévu de se faire un somptueux tapis de salle de bain avec la fourrure du Bigfoot et d'accrocher sa tête au-dessus du foyer comme un trophée. Mais à la place, elle se retrouvait avec moi, inerte et brisée, à chaque endroit où un corps humain peut se briser. Avec un profond soupir de découragement, elle m'attrapa par les chevilles et entreprit de me traîner à travers la forêt. Mon visage racla contre le sol, heurtant chaque racine et s'éraflant sur chaque pierre qui se trouvait sur notre chemin. Pourtant, rien de tout cela ne me réveillait. J'étais dans un coma profond, mon corps suspendu entre la vie et la mort. Je n'ose même pas imaginer combien de temps il a fallu à ma cousine pour me traîner jusque chez elle. Quand elle arriva enfin devant sa maison, les bras en compote et les pieds couverts d'ampoules, elle s'effondra à genoux dans l'allée en terre battue. À la différence de tout le reste, je sais exactement comment cette prochaine scène se déroula grâce aux caméras de surveillance installées un peu partout sur son terrain. Sur le perron, Linda tricotait paisiblement, sa salopette couverte de peinture et son regard fixé sur ses aiguilles. En entendant les genoux de Caroline frapper le sol, elle leva enfin la tête. « Ben voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé ?» On aurait pu croire qu'elle s'inquiétait pour moi, inerte et ressemblant à de la purée aux fraises. Mais non. Elle se précipita vers Caroline et m'écrasa les bras en marchant sur moi comme si j'étais un vieux tapis. Paniquée, elle tendit une bouteille d'eau à ma cousine. « T'as l'air déshydraté !» Caroline, qui peinait à se remettre de sa propre condition, prit l'eau d'un geste vif. Quant à Linda, elle n'avait même pas l'air de remarquer que j'étais là, étendu comme un déchet. Les deux se lancèrent par la suite dans une discussion complètement hors contexte qui dura plus d'une vingtaine de minutes. « Tu devrais mettre des lavandes dans ton jardin. C'est doux, c'est joli, ça attire les abeilles. » Caroline hocha la tête de manière positive, considérant de toute évidence la suggestion. Elle semblait peu à peu reprendre de l'énergie et se montrait aussi intéressée que Linda par la conversation, enchaînant les sujets sans prêter attention à mon état. Au bout d'un moment, Linda baissa enfin les yeux vers moi. Elle observa mon corps inerte pendant quelques secondes, puis fit une remarque déplacée sur mon apparence. « Je trouve que Madame Spaghetti, elle se laisse pas mal aller depuis quelques semaines. » Caroline, un peu agacée que la conversation dérive sur moi, expliquait que j'avais été attaqué par un Bigfoot. Linda haussa les épaules en commentant que je ferais bien n'importe quoi pour attirer l'attention et que la semaine précédente, j'étais tombé dans ma douche en dansant sur du Mario Pelcha. Ce n'est qu'après m'avoir bien critiqué qu'elles se décidèrent enfin à contacter les secours. Sachant qu'il n'y avait pas de réseau téléphonique à des kilomètres à la ronde, Caroline réfléchit à un plan aussi improbable qu'efficace. Elle se déplaça vers la cuisine, où elle s'empara d'une boîte de fusée de détresse qui avait été oubliée là par les anciens propriétaires. Aidée de Linda, elle tira plusieurs fusées en l'air avant de se dire qu'il serait plutôt préférable de le faire à l'extérieur de la maison. Par chance, un hélicoptère de pompiers patrouillait déjà dans les environs, à la recherche de signes de feu de forêt. Après avoir aperçu les éclairs rouges et vifs des fusées, l'appareil changea immédiatement de trajectoire. Le vacarme des pales se fit bientôt entendre au loin, un son de délivrance pour Caroline et Linda qui s'apprêtaient à abandonner l'opération. Les pilotes, réactifs à la situation, manœuvrèrent habilement pour se poser dans un espace dégagé près de la maison. Une fois l'hélicoptère stabilisé au sol, les portes s'ouvrirent et des secouristes s'empressèrent de sortir pour évaluer mon état. Je fus rapidement monté à bord, sur une civière que les secouristes fixèrent à un système de sangles pour éviter tout mouvement pendant le vol. Linda, sans aucune hésitation, grimpa à bord elle aussi. Elle se plaça sur le petit banc métallique à l'intérieur de la cabine, juste à côté de moi, en prenant soin d'installer son sac à tricot sur mes branches en compote. Caroline, de son côté, s'approcha des secouristes en affirmant que l'espace était trop restreint et qu'elle ne voulait pas nuire au bon déroulement des soins pendant le vol. Elle leur dit qu'elle allait prendre la voiture et nous rejoindre directement à l'hôpital. L'histoire semblait crédible, mais c'est de ma cousine que l'on parle ici. Grâce aux caméras de surveillance, on peut très bien la voir retourner s'asseoir paisiblement sur son perron à peine 2 minutes après le décollage de l'hélicoptère. Elle ouvre une bière, retire ses bottes et s'installe bien confortablement pour regarder le soleil se coucher à travers les arbres. Elle ne viendra jamais nous rejoindre à l'hôpital. En fait, elle démontra même ma voiture et se servira de la tôle pour réparer son toit. Le vol jusqu'à l'hôpital dura 2 longues heures. 120 minutes au-dessus d'une forêt dense, de montagnes muettes et de lacs aussi noirs que les pensées de Regina, démon de métal. Les secouristes m'avaient enroulé dans des couvertures thermiques, comme si j'étais un reste de viande qu'on voulait conserver pour plus tard. Linda, elle, passa le trajet à poser 1001 questions au personnel médical. Est-ce que les hélicoptères peuvent aller dans l'espace? Est-ce qu'on peut faire chauffer un grilled cheese dans un muffler? Ce genre de choses. Nous arrivâmes à l'hôpital vers 20h20, dans un chaos digne d'un film d'Hollywood. Dès que les portes de l'hélicoptère s'ouvrirent sur le toit, des infirmières se ruèrent vers moi comme si elles attendaient une livraison spéciale. On aurait dit que j'étais le rachat du Boxing Day. Elles me roulèrent à toute vitesse à travers les couloirs pendant que Linda courait derrière la civière en criant que j'étais une célébrité décédée. Je ne l'étais pas, mais mon état était définitivement critique. Mon rythme cardiaque était très irrégulier, ma température corporelle dangereusement basse et mes cheveux n'étaient pas brossés. On me conduisit immédiatement en salle d'opération où plusieurs interventions d'urgence furent pratiquées cette nuit-là. Quelques opérations supplémentaires furent également nécessaires dans les jours suivants. Au total, je restais dans le coma pendant 84 heures. J'avais des fractures partout où il était possible d'en avoir, des pieds à la tête. Ma mâchoire était brisée, laissant mes dents dans un état lamentable avec peu de survivantes. Mes côtes et mon sternum étaient également fracturés, rendant chaque respiration quasi impossible. Croyez-moi, j'étais dans un état assez pitoyable. L'équipe médicale ne tarda pas à qualifier ma survie de véritable miracle et de mystère scientifique. À mon réveil, la douleur était omniprésente malgré les tonnes d'antidouleurs qu'on m'avait administrées. J'avais du mal à bouger et mon esprit était brouillé. Pourtant, je réussis par chance à articuler quelques mots à Linda, qui était restée assise à mon chevet. « Prends une photo. » Linda ne protesta pas. Elle avait l'habitude. Elle sortit son téléphone et captura l'instant pour ensuite le publier sur mes réseaux sociaux avec un communiqué officiel sur mon état de santé. Les semaines passèrent et je restais allongé dans ce lit d'hôpital. 3 mois dans cet établissement, entouré de médecins et de machines, à me battre pour retrouver un peu de mobilité et d'autonomie. Réapprendre à marcher et à tenir des objets fut un véritable calvaire. Chaque mouvement me coûtait une énergie folle, mais je savais que je n'avais pas le choix. Mon entourage me qualifiait de résiliente. Il parlait de ma détermination à surmonter cette épreuve. Entre nous, ce qui me motivait, c'était de savoir que cette histoire allait faire un sacré bon livre à vendre. Probablement un best-seller avant même sa sortie. Parce que même si j'avais encore chuté, Je visualisais déjà mon prochain triomphe.